Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 180e numéro de nos chemins d'histoire, le 21e de la 5e saison, et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Régine Lejean. Bonjour à vous.
Bonjour.
Régine Lejean, vous êtes professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous publiez dans la prestigieuse collection L'Univers historique, désormais dirigée par Patrick Boucheron et Paulin Ismard, un ouvrage intitulé « Amis ou ennemis, émotions, relations, identité au Moyen-Âge ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous considérons, dans une perspective anthropologique et décentrée, la personne médiévale dans ses relations et ses identités multiples, au-delà ou en deçà des dichotomies réductrices et des frontières anachroniques entre amour, amitié, pardon, haine, violence et vengeance. Alors disons, pour commencer cette émission, que ce livre, Régine Lejean, s'inscrit... apparemment, en tout cas, dans l'histoire, l'historiographie des émotions, une historiographie assez nourrie ces dernières années. Dans vos premières pages, vous donnez la liste de plusieurs travaux, Barbara Rosenwein, Riccardo Cristiani, Damien Moquet, Piero Scanagi, Ute Frevert, David Constant, enfin voilà, il y a un certain nombre d'auteurs sur le Moyen-Âge ou de manière plus générique qui ont travaillé sur cette thématique de l'histoire des émotions. Vous inscrivez en partie peut-être là-dedans ?
Alors je m'inscris effectivement en partie dans cette historiographie, celle des émotions, mais j'ai voulu aller un peu au-delà de l'histoire des émotions, ou plutôt j'ai envisagé ces émotions dans la perspective des relations, puisque l'amitié, c'est à la fois un sentiment, une émotion, mais c'est aussi une relation à un autre ou une relation aux autres. Ce qui m'a conduit à rechercher les caractéristiques des relations au Moyen-Âge, s'il y avait des caractéristiques particulières, ce qui m'a conduit à ajouter identité, parce que ces relations portent des identités qui sont elles-mêmes partagées.
Évidemment, l'histoire que vous proposez, c'est une histoire qui met de côté l'évolutionnisme, vous nous direz ce que vous entendez par là, une histoire selon laquelle les sujets médiévaux, dites-vous, ne dominaient pas moins leurs émotions que les occidentaux du XXIe siècle, hein, faut pas projeter un certain nombre de choses, mais qui les exprimaient différemment en suivant leur propre code. Ça, c'est important d'avoir peut-être cette espèce de prodrome en tête quand on aborde ce champ des émotions.
Oui, parce que la façon traditionnelle d'envisager l'expression des émotions, l'expression des sentiments, c'est de faire référence à nos propres manières d'exprimer ces émotions et d'une certaine manière d'envisager un contrôle de plus en plus grand de ces expressions et de ces émotions. Je pense à Philippe Ariès, enfin à un certain nombre d'historiens qui, dans une perspective évolutionniste, montraient comment la personne contrôlait de mieux en mieux ses émotions jusqu'à nos jours. Or, en réalité, les travaux anthropologiques ont bien montré que dans toutes les sociétés, les individus ou les personnes contrôlent leurs émotions d'une manière ou d'une autre, mais les expriment de manière différente en fonction des pratiques et des coutumes sociales. Donc, il faut non pas envisager, analyser l'expression de ces émotions par rapport à nos propres expressions, mais les replacer dans leur contexte, donc dans le cas précis, dans le contexte du Moyen-Âge.
Vous dites, vous soulignez assez rapidement dans votre livre la difficulté de mesurer l'expression de la subjectivité dans un haut Moyen-Âge assez large. C'est difficile, il y a des documents bien sûr, mais bon, voilà.
Il n'y a pas beaucoup de documents pour mesurer la subjectivité. Prenons l'exemple des documents à la première personne, qui devraient être les documents ou les sources qui sont les plus à même, les mieux à même d'exprimer la subjectivité. C'est ainsi que nous concevons les choses de nos jours. Eh bien, il y a peu de documents à la première personne, hein. Alors, on a quelques autobiographies, elles sont peu nombreuses et elles sont relativement tardives. Il faut attendre, en gros, le XIe siècle pour avoir de véritables autobiographies. Guibert de Nogent, c'est même le XIIe. Évidemment, on a d'autres sources. On a des lettres, par exemple, correspondances qui peuvent permettre d'approcher cette subjectivité, mais il faut savoir que ces lettres n'étaient en général, celles qui ont été conservées en tout cas, n'étaient pas destinées à n'être lues que par leur destinataire, mais par un public plus large. Donc, la subjectivité est là encore difficile à mesurer. Et toutes les œuvres que nous avons conservées avaient d'autres motivations, d'autres motifs que d'exprimer simplement la subjectivité. Je prends un exemple que j'ai pas mal utilisé dans mon livre, c'est le manuel de Duoda, cette grande aristocrate du milieu du IXe siècle qui est dans une période politique troublée après les guerres civiles entre les trois fils de Louis le Pieux qui se disputent l'héritage. Elle se trouve isolée à Uzès, dans le sud de la France. Son mari est auprès de Pépin d'Aquitaine, qui est plus ou moins en rébellion. Son fils aîné est auprès du roi Charles le Chauve parce que son mari, Bernard de Septimanie, a été obligé de confier le fils aîné au roi. Et son plus jeune fils, qui n'a que quelques mois, lui a été enlevé aussi. Elle est donc seule. Et elle écrit un manuel qui est une sorte de guide moral pour son fils, dans lequel elle commence par expliquer qu'elle est séparée de ses enfants, qu'elle est séparée de lui, qu'elle est séparée de son frère, et elle exprime sa tristesse, elle exprime la douleur d'une mère d'être séparée de ses fils. Il n'y a pas lieu de douter de sa douleur d'être séparée de ses fils, mais quand on analyse de près le manuel, on voit que derrière les conseils moraux qu'elle donne à son fils pour qu'il se conduise comme il doit se conduire en bon chrétien, mais aussi en grand aristocrate, il y a tout un message politique qui se trouve derrière, à l'arrière-plan du manuel et que j'ai étudié, non pas dans ce livre, mais dans d'autres travaux. Donc vous voyez, le manuel n'a pas pour but que de donner des conseils à son fils ou d'exprimer la douleur de la mère devant l'absence des fils. Et on peut même aller plus loin, on peut dire qu'elle se donne l'image de la mère souffrant de l'absence de ses fils, mais que c'est pour mieux faire passer un discours politique. Alors c'est certainement aller trop loin, mais c'est une possibilité. Et c'est pourquoi il est très difficile d'approcher la subjectivité de ces personnes.
Et on comprend, d'après tout ce que vous dites, qu'évidemment, atteindre la subjectivité des classes inférieures, ça relève de l'impossible.
Oui, là, ça relève de l'impossible parce que les sources sont encore beaucoup moins nombreuses. Il faut vraiment traquer à travers les vides saints. Mais là encore, les vides saints sont des sources éminemment construites. Il y a des images positives ou négatives qui sont plaquées sur ces paysans. Et il est très difficile d'approcher le ressenti personnel de ses émotions. Alors, il ne faut pas tout envoyer au panier en disant on ne peut rien faire parce qu'on est sûr de rien. Mais il faut savoir que l'historien de ces périodes-là doit contextualiser et déconstruire les sources.
Alors, ce qui vous intéresse, vous le dites assez rapidement, Régine Lejean, c'est la personne relationnelle. Et là, vous vous inspirez des travaux de Marcel Mauss, de Jérôme Bachet aussi. La personne relationnelle, c'est le contraire de la personne individuelle. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Une personne où les relations précèdent l'être. Alors, il y a un passage très important dans votre livre, c'est à la page 15. Vous dites ceci. C'est par la personne considérée comme divisible, ses relations et ses rôles, que l'on peut espérer comprendre la subjectivité médiévale.
Je vais vous donner un exemple, celui de la fidélité multiple. Bien sûr, tout le monde a en tête ce qu'est un vassal, et ses relations avec son seigneur, c'est-à-dire l'engagement vassalique, qui est l'engagement complet de la personne envers son seigneur et des devoirs qui sont induits par cet engagement, qui est d'ailleurs un engagement réciproque. Le seigneur s'engage aussi vis-à-vis de son vassal. Mais en tout cas, le vassal remet ses mains dans les mains du seigneur, il engage complètement sa personne. Et pourtant, très rapidement, se développe la fidélité multiple, la vassalité multiple. C'est-à-dire qu'une personne est vassale, un homme est vassal de plusieurs seigneurs, dont il reçoit plusieurs bénéfices. Si l'on prend la personne individuelle, indivisible, c'est incompréhensible. Et pourtant, si vous prenez en compte le fait que ces personnes relationnelles sont constituées de multiples relations partagées et de multiples identités et qu'elles peuvent vivre complètement dans une relation sans supprimer les autres, on comprend très bien comment ils peuvent être vassaux de plusieurs seigneurs et s'engager auprès de plusieurs seigneurs. Alors, on a pu inventer l'hommage-lige, un hommage prioritaire, et de fait, on peut hiérarchiser les relations, mais il n'empêche qu'ils restaient engagés complètement, ils ne partageaient pas leur personne, ils restaient engagés complètement entre plusieurs personnes. C'est la même chose avec le passage d'un royaume à l'autre, d'une fidélité à l'autre, sans que ça pose réellement problème et sans qu'il soit taxé de trahison. Il s'engage dans une autre relation préexistante, hein, que ce soit de parenté, de tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, ils reviennent sans qu'il y ait réellement de problème.
On comprend très bien que dans ce cadre-là, l'idée de liberté individuelle qui dénie les interdépendances constitutives de la personne n'a pas sa place au Moyen-Âge. Non. C'est une spécificité de l'Occident moderne. Donc là, il faut pas faire d'anachronisme.
Il faut se décentrer, ce qu'ont montré les anthropologues britanniques ou ce que montre aussi Descola ou Eduardo Viveiros de Castro, c'est que c'est vraiment l'Occident qui a de la personne ces conceptions-là. Si vous partez du côté de la Chine, du Japon, de l'Afrique contemporaine, hein, vous avez des conceptions complètement différentes. Donc, ce sont effectivement nos conceptions occidentales qui ont changé par rapport à ces périodes-là ou par rapport à d'autres mondes et qui a conduit les anthropologues du 19e siècle à parler de peuples primitifs en plaquant les conceptions occidentales et évolutionnistes en considérant qu'on évoluait de ces conceptions-là à nos conceptions occidentales alors que de nos jours encore, en Chine, on n'a pas la même conception.
Alors évidemment, la question qu'on peut poser, c'est la place peut-être des non-humains que vous posez discrètement dans
parce
le
que,
livre.
Discrètement parce que je pense qu'étudier ces relations avec les non-humains aurait été encore tout un champ de recherche, mais je l'aborde en particulier les relations aux choses. J'ai pas envisagé les relations aux animaux, mais on pourrait le faire. Hein. Mais les relations aux choses, on se trouve dans des sociétés qui ne séparent pas la nature et la culture, le matériel et le spirituel, et où les choses sont elles-mêmes porteuses d'identité. Elles sont d'une certaine manière animées. On peut le voir dans les épées précieuses à laquelle on donne un nom. Si on donne un nom, c'est parce qu'elles sont personnifiées d'une certaine manière. Les sources également. Alors évidemment, on peut dire que c'est des traces du paganisme, mais je pense que ce sont des sociétés où les objets peuvent être même, peut-être pas animés, mais personnifiés. Et c'est aussi très vrai de la terre, peut-être pas de n'importe quelle terre, mais de certaines terres qui ont ce que j'avais appelé une plus-value symbolique, parce que elles ont été données aux églises, parce que ce sont des terres ancestrales et qu'elles portent en quelque sorte l'identité de la personne. Ce sont des terres particulières, plus tard un château, où elles ont été données aux saints et rétrocédées sous une autre forme. Elles portent une part de sacré, où elles ont été données par le roi. Là encore, elles portent une part de l'identité royale. Donc, vous avez dans ces choses, dans ces objets, dans la terre, dans les objets en particulier précieux, les couronnes aussi, c'est la même chose, vous voyez. Vous avez une forme de personnification, d'identité partagée par ceux qui les ont possédées et par ceux qui les possèdent. Et ça, c'est aussi fort important.
L'introduction le précise bien, le dit bien, tout ça, ça s'inscrit dans une vision, dans une ontologie propre au Moyen-Âge, qui se construit dans le temps long. Une ontologie qui relève de ce que Philippe d'Escola, que vous citiez tout à l'heure, appelle l'analogisme. On recevait Jean-Claude Schmitt il y a quelques semaines, hein, qui nous a beaucoup parlé aussi de tout cela. L'analogisme s'applique à l'Inde, à la Chine, à l'Empire romain, mais aussi au Moyen-Âge central, avec une société-église qui unifie le cosmos par un système de correspondance, de ressemblance et d'échange entre l'ici-bas et l'au-delà, et par le développement de structures hiérarchiques. Mais évidemment, les choses se construisent vraiment dans la durée, Régine Lejean, entre l'analogisme antique et l'analogisme théocentré du Moyen-Âge central. Il y a un ensemble de chemins, d'hybridation, enfin c'est complexe.
Oui, tout à fait. La construction globale, intégrative, qui passe par la diffusion de l'amour de Dieu, c'est là que ça m'intéresse évidemment, l'amour de Dieu, l'amour, amitié, comment tout cela finalement s'articule. Alors, on peut dire que les choses se mettent en place dès l'époque carolingienne. On a déjà dans l'Antiquité tardive, et en particulier chez les pères de l'Église, on a déjà tous les éléments sont en place. Mais la construction, en gros, date de l'époque carolingienne et aboutit à cette théocratie à l'époque grégorienne. Et tout cela passe effectivement par une distinction de tous les éléments. Alors, c'est ce que montre d'Escola. On peut discuter, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même très cohérent. Distinction de tous les éléments de la nature et correspondance par le biais d'analogies. Et ça, on le voit bien à l'époque médiévale. Par exemple, entre les différents pères, hein, Dieu le père familial, le père spirituel, etc. Vous avez toute une série de correspondances, mais qu'on retrouve dans tout. Et par toute une série d'analogies, l'ensemble se structure et se structure de plus en plus hiérarchiquement pour donner cette construction. La vocation est d'intégrer toutes les relations et toutes les communautés, tous les groupes dans un même ensemble qui est la société chrétienne. Sous sa forme politique, l'Empire, à l'époque carolingienne.
Il faut qu'on termine cette première partie de l'émission, évidemment, par votre titre, par votre avant-titre, ami ou ennemi, avec un point d'interrogation, un titre qui frappe. Je ne sais pas si c'est un choix de votre part ou si c'est un choix en discussion avec votre éditeur.
Non, c'est mon choix, mais au départ, le titre premier n'était pas ami ou ennemi. Le titre premier, c'était l'amour et la haine. Mais ce titre ne convenait pas. Et donc, comme j'avais axé finalement sur les relations, j'ai proposé ami ou ennemi, point d'interrogation. Ça convenait parfaitement aux éditeurs.
Qu'est-ce qu'il dit de votre projet, cet avant-titre ?
Alors, ce qu'il dit de mon projet, c'est de voir comment peuvent s'articuler deux relations contraires, celle de l'amitié et celle de la haine ou de l'inimitié, dans une société qui se veut progressivement unifiée par l'amour divin et dans une société que l'on définit alternativement selon ce que l'on étudie, ou selon ce que l'on privilégie, ce que les historiens privilégient, comme une société déterminée par la culture de la caritas, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, ou une société définie par la culture de l'honneur et de la vengeance. Donc, c'est-à-dire des choses complètement antinomiques. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait articuler une culture de l'honneur, une culture de l'amitié, et comment tout cela pouvait définir une culture médiévale, si c'est possible de la définir, qui ne soit ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi, à la fin, je propose, au fond, une culture de la médiation et de l'intercession.
Et tout cela, vous le faites dans un cadre chronologique qui est lui-même relativement plastique, long. Mais
oui.
Long, mais il n'y a pas vraiment de borne. Enfin,
non.
On a l'impression quand même que la réforme grégorienne marque, voilà, une espèce de césure. On a l'impression que vous êtes
avant la réforme grégorienne, sachant que je suis allée quand même au-delà de la réforme grégorienne.
Vous ne vous interdisez rien.
Voilà, je ne m'interdis rien. J'ai parlé de l'amour courtois qui naît en pleine réforme grégorienne, on va dire. Mais j'ai mis une image qui date du XIVe siècle. Mais il y a effectivement des changements importants qui interviennent au moment de la réforme grégorienne, qui sont en fait, à mon avis, l'aboutissement d'une évolution longue qui commence au moins à l'époque carolingienne, mais qui puise toujours ses racines dans l'Antiquité tardive. Hein. Mais une évolution qui change avec la prétention du pape et la prétention des clercs à détenir l'autorité supérieure sur ces sociétés. Un changement avec cette volonté que l'on voit déjà à l'époque carolingienne, mais qui, là, est vraiment beaucoup plus forte, de séparer les clercs et les laïcs et d'accorder la prééminence au premier, aux clercs, et de définir, au fond, les clercs et les laïcs. D'abord, les clercs, ce sont ceux qui sont astreints à la chasteté et à la continence. Les laïcs, ce sont ceux qui sont engagés dans le mariage et qui ont pour vocation la guerre et la défense de la société. Il y a là un changement, même si les prémices sont bien carolingiennes.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Régine Lejean, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice au seuil d'un ouvrage intitulé « Amis ou ennemis, émotions, relations, identité au Moyen-Âge ». Alors, dans la deuxième partie de notre émission, on peut revenir sur quelques points saillants de votre livre. On ne dira pas tout, c'est un volume de plus de 500 pages, avec un index, et ça, on ne saurait trop vous en remercier, parce que c'est devenu très rare. Alors, la première partie du livre est consacrée à la façon dont l'amitié et la haine rendent compte, dites-vous, des valeurs cohésives et distinctives de la société. Comment des valeurs qui semblent radicalement opposées ont pu se combiner pour garantir le pacte social, assurant la bonne marche de la cité, la domination des élites, leur capacité à coopérer tout en rivalisant. C'est ce que vous dites à la page 21. Et cela passe d'abord par une analyse de la terminologie affective. C'était important de commencer par les mots, Régine
Lejean.
Oui,
c'est important de commencer par les mots. Bon, les mots qui désignent la haine sont assez simples et sans ambiguïté, odium, etc. En revanche, les mots qui désignent l'amitié sont à la fois multiples et prêtent peut-être à confusion si on les envisage de nos points de vue. Alors, on a pour l'amitié amicitia, donc qui vient du verbe amare, qui veut dire aimer. Venant du même verbe amare, on a amor. On a dilectio, qui vient du verbe diligere, qui là aussi veut dire aimer, qui a donné dilection en français, enfin un certain nombre de mots, qui veut dire amour, amitié. On a affectus ou affectio, qui a donné l'affection. On a caritas, que l'on traduit, qui a donné charité, mais il ne faut pas oublier que caritas vient de carere, qui veut dire chérir, et qui est employé pour amour. Et lorsque l'on analyse l'usage que l'on fait de ces termes, on voit que dans ces périodes, ils sont largement interchangeables. Et en particulier, qu'amor est interchangeable, très souvent, avec amicitia. Or, de nos jours, nous faisons la différence entre l'amour et l'amitié, dans un certain nombre de cas et dans certains registres. Alors, si l'on parle de l'amour de Dieu, si l'on parle de l'amour des saints, des défunts, si l'on parle de l'amour de la patrie, etc., lorsque l'on parle de l'amour entre personnes, que ce soit l'amour d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme, ou l'amour entre des personnes de même sexe, on différencie amour d'amitié. Parce qu'on introduit une connotation sexuelle, et cette connotation sexuelle n'existe pas au Moyen-Âge. C'est une introduction du 19e siècle, et c'est très important.
De cette analyse de mots ressort l'idée que la valeur de l'amitié dépend toujours de la vertu, concept lui-même fortement polysémique.
Oui.
Finalement, vous dites que la distinction toute cicéronienne entre bonne et mauvaise amitié traverse les siècles, mais se complexifie au Moyen-Âge. Vous dites la vertu reste, en reprenant les mots d'un collègue, Stephen Jäger, reste le ciment social de l'amitié. Ça, c'est intéressant, la vertu.
La vertu qui peut avoir le sens que nous lui donnons de vertu, hein, quelque chose d'honorable, de bien, qui peut aussi être virtus, courage. La valeur de l'amitié s'évalue à l'aune de la vertu et l'amitié devient elle-même une vertu. Là, c'est vraiment le socle antique qui passe dans le Moyen-Âge, comme vous venez de le dire pour Cicéron. Sachant que cette distinction entre amitié valorisée, la vraie, ce qu'il appelle la vera amicitia, la vraie amitié, l'amitié véritable, qu'il appelle l'amitié du cœur, et qu'il oppose à l'amitié intéressée, se trouve déjà chez Aristote, mais Cicéron lui donne une connotation politique et fait la différence entre l'amitié des égaux, qui est la vraie amitié pour lui. Seule l'amitié qui se développe entre les égaux peut être une amitié vertueuse, parce que, dit-il, c'est l'amitié du cœur et parce qu'elle n'est pas intéressée. Puisque ce sont des égaux, ils ne cherchent pas à avoir un intérêt à être amis. Évidemment, c'est biaisé comme raisonnement, hein. Et il oppose cette amitié-là à l'amitié hiérarchique qui est l'amitié clientélaire, celle qui lie les patrons romains à leurs clients. Donc une amitié verticale, hiérarchique. Et pour lui, c'est de la mauvaise amitié parce que les partenaires, que ce soit le patron ou ses clients, sont amis parce qu'ils recherchent quelque chose. Ils ont un intérêt à être amis. Le patron a intérêt à avoir beaucoup de clients et les clients ont intérêt à être dans la suite d'un patron. En gros, pour lui, c'est une amitié que l'on appellerait mafieuse, hein. Sauf que ça, c'est l'opinion de Cicéron. Cicéron n'appartient pas à la classe sénatoriale. Il veut être considéré comme faisant partie de l'élite des égaux et il méprise profondément les clients. Mais si vous prenez Augustin, par exemple, au IVe siècle, le jeune Augustin a fait partie de la clientèle d'un patron, Romanianus, et il considère que sa relation avec Romanianus et la relation que Romanianus entretenait avec lui et avec ses autres clients était une amitié que lui considère comme une bonne amitié. Alors, au Moyen-Âge, cette distinction passe, hein, parce que les écrits de Cicéron et son traité sur l'amitié sont beaucoup lus. Cette distinction passe, mais elle va être réinterprétée selon les auteurs. La mauvaise amitié sera l'amitié détournée, qui sert en particulier dans la compétition agressive, qui sert éventuellement à assassiner ses rivaux en détournant les rituels, etc. Ou même, ça peut être utilisé comme amitié des pactes. On peut caractériser l'amitié de certains pactes comme une mauvaise amitié, parce qu'elle est purement intéressée. Mais là encore, il faut toujours contextualiser, voir quel est l'auteur qui qualifie tel ou tel pacte de mauvaise amitié.
Il faut expliquer ces pactes pour nos auditeurs.
Alors, les pactes d'amitié, ce sont des pactes politiques conclus à des fins purement politiques. Ce sont des alliances, mais auxquelles on donne le nom d'amitié.
Alors, on comprend que les valeurs antiques, hein, qui traversent quand même les siècles, sont néanmoins confrontées à d'autres valeurs.
Oui.
En apparence contradictoires, c'est ce que vous expliquez dans vos chapitres, dans les chapitres suivants, celle de la violence guerrière et celle de l'universalisme chrétien qui met en avant l'amour de Dieu pour tous ses enfants.
Sachant que, pour ce qui est de l'honneur et de la violence, l'Empire romain s'était quand même construit par la guerre. Ça, c'est une chose. Autre chose, la culture de l'honneur existe également dans la société romaine. Alors, la vengeance est contrôlée, elle est réprimée et elle est condamnée, mais il y a néanmoins tout un système de compensation qui est assez comparable à ce que l'on peut trouver dans les lois barbares, qui sont considérées de nos jours comme des adaptations du droit romain aux populations vivant dans le cadre de l'Empire romain. Donc, il faut évidemment mettre un bémol à l'opposition entre barbares guerriers et romains pacifiques. Mais il y a néanmoins une culture de l'honneur et une culture guerrière qui est certainement prédominante au Moyen-Âge, beaucoup plus dominante qu'elle ne l'était à l'époque romaine où existait une armée qui était une armée en quelque sorte de métier et salariés. Tandis qu'au Moyen-Âge, la guerre et la défense sont assurées par l'aristocratie et les hommes libres ou les fidèles des aristocrates ou des rois lorsqu'ils font la guerre. La conception de la guerre dans le christianisme, la guerre est condamnée, mais la guerre est un mal qu'il faut accepter dans la mesure où il s'agit de défendre la patrie, de défendre la société chrétienne ou lorsqu'il s'agit d'étendre le royaume de Dieu, donc de convertir les païens. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'universalisme chrétien et le fait que ces amitiés antiques se sont transformées sous l'effet de la christianisation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'amitié entre les élites romaines soutenait vraiment la construction romaine dans la mesure où, justement, ces amitiés antiques avaient pour horizon Rome, la cité et l'Empire romain. Et que le christianisme a conduit à ce que, la christianisation a conduit à ce que ces élites aient tendance à se détourner de l'horizon romain, de l'horizon de la cité, pour assurer leur salut. Ça n'est pas le seul élément, mais c'est un élément qui a contribué à ce que les élites se détournent et se replient sur l'atrium, on va dire, hein, pour employer un terme romain. Et ça a évidemment été un facteur, un des facteurs d'affaiblissement de l'Empire romain.
Vous insistez beaucoup dans votre livre sur la construction d'une nouvelle religion de l'amitié. C'est à la page 83, qui passe par la multiplication des donations aux églises, par l'enchevêtrement des communautés virtuelles de vivants et de morts. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus, cette nouvelle religion de l'amitié?
Parce que je pense que c'est effectivement très important. Les pratiques elles-mêmes, au fond, se sont adaptées, mais n'ont pas fondamentalement changé. On retrouve le banquet, etc., les échanges de nourriture, mais ça, on trouvait tout cela dans l'Antiquité, on trouve ça dans d'autres sociétés, et la scène du Christ, c'est un banquet. Hein. Mais en revanche, ce que j'appelle cette nouvelle religion de l'amitié, c'est la christianisation de l'amitié et le fait que se développe une multiplicité et un enchevêtrement de relations dont les points fixes sont les églises et plus particulièrement encore les monastères qui permettent de construire une espèce d'architecture qui est idéologique, mais qui est aussi matériel, et l'on retrouve là ces correspondances entre le matériel et le spirituel, par le biais des donations aux églises, qui sont un phénomène fondamental. Donations aux églises et de plus en plus donations aux monastères. Alors, il y a eu, à partir du IVe siècle, de gigantesques transferts de biens matériels et en particulier de terres aux églises. Il y a d'ailleurs un très beau travail d'un historien britannique qui est un de mes amis, qui s'appelle Ian Wood, et qui a étudié ce phénomène et qui compare ce phénomène à des phénomènes en Inde ou dans d'autres sociétés, ou en Israël par exemple, antique, hein, Israël antique, en parlant d'une société du temple, où se constitue une église qui n'existe pas dans l'Empire romain, hein, avec une véritable caste de prêtres de plus en plus nombreuse. Et là encore, il y a peu de prêtres dans l'Empire romain. Hein. Là, une véritable caste de prêtres qu'il faut entretenir grâce à ces donations qui font que l'Église devient le plus gros propriétaire foncier d'Occident. Mais par le biais de ces donations aux Églises, donc se constitue cette caste de prêtres et les laïcs, mais pas seulement les laïcs d'ailleurs, l'ensemble des chrétiens, en donnant des biens et en donnant des terres pour le salut de leur âme, puisque ces donations sont faites pour le salut de leur âme, et ces prêtres et surtout ces moines, progressivement, deviennent les médiateurs principaux, puisqu'ils assurent la prière pour les morts indifférenciés dans un premier temps, mais pour des morts bien particuliers, c'est-à-dire leurs bienfaiteurs, de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et ces bienfaiteurs sont d'une certaine manière intégrés dans la communauté. Naturellement, ils ne vivent pas dans la communauté. La communauté vit non pas en vase clos, parce que les communautés du haut Moyen-Âge sont très ouvertes, jusque assez loin dans le Moyen-Âge, sont ouvertes sur l'extérieur, justement, mais par le biais de ces donations et de ces bienfaits, les bienfaiteurs sont intégrés dans la communauté. C'est particulièrement vrai à partir de l'époque carolingienne, et ces bienfaiteurs sont appelés les amis des moines, amici, et on a des livres mémoriels, livres de confraternité, livres de vie, livres de mémoire, qui apparaissent au IXe siècle, dans lesquels les moines, ou les moniales, hein, parce que c'est vrai aussi des femmes, recopient les listes de communautés avec lesquelles ils ont conclu des accords de prière réciproque au moment des morts, mais aussi des listes de laïcs ou des listes de groupes qui se font inscrire par groupe dans ces livres et c'est recopié. Ils deviennent membres de la communauté et amis de la communauté. Et comme ils font des donations à plusieurs monastères en même temps ou successivement, etc., ils se font inscrire dans plusieurs inscrire ou pas inscrire, parce que toutes les communautés n'ont pas fait des livres, mais il n'est pas nécessaire d'avoir des livres pour que le lien se crée, et des liens d'amitié se créent ainsi entre les laïcs, des clercs, enfin toutes sortes d'ailleurs, des liens se créent, qui créent un enchevêtrement de relations entre les vivants, mais entre les vivants et les morts, puisque le but, évidemment, c'est de prier non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Et dans le livre le plus complet, qui est celui du monastère de Reichenau, situé dans une île du lac de Constance, le livre le plus important, le livre a été divisé en deux. D'un côté, les communautés pour lesquelles les moines se sont engagés à prier par accord. Et puis ensuite, vous avez la liste des vivants, les amis vivants. Alors ça s'appelle, j'ai mis dans le livre la photo du début, et c'est en rouge, hein, en plus, non, là c'est en noir et blanc malheureusement, mais nom des amis vivants, et plus loin, à une autre partie, nom des amis défunts. Alors ils ont recopié le nom de leurs amis défunts qui leur avaient fait des donations par la suite. Et ces livres sont continués jusqu'à une date avancée du Moyen-Âge. Et vous avez là, je trouve, l'expression de ce que peut être l'amitié comme ciment social.
Alors, dans les différents aspects du livre qui sont passionnants, les formes prises par les valeurs affectives, c'est l'objet de votre deuxième partie, parenté et familiarité. La familiarité, alors c'est une composante essentielle, dites-vous, de l'amitié au Moyen-Âge. La familia, c'est la communauté résidentielle, hein, parfois.
Oui, la familia, c'est vraiment la famille au sens résidentiel, c'est-à-dire ceux qui vivent ensemble. Et ceux qui vivent ensemble dans la maison. Et au sein de cette maison, théoriquement, règne la concorde, règne la paix. Et c'est ça la familia. Hein. Et la familiarité, c'est la proximité de ceux qui vivent ensemble. Mais la familiarité ensuite se négocie, évidemment, quand c'est en dehors de la famille charnelle étroite.
Vous dites l'amitié altimédiévale, un adjectif pour dire du haut Moyen-Âge, est fondamentalement une amitié utile, performative, qui se développe surtout dans la parenté, mais aussi dans des espaces de socialisation, comme les écoles, les cours, les compagnies guerrières. Et vous vous inscrivez en faux contre ceux et celles qui soutiennent que la parenté spirituelle s'est imposée comme fondement principal des relations sociales. Au haut Moyen-Âge, il n'y a pas, Régine Lejean, de dissolution des liens de consanguinité, d'affinité ou d'adoption. Ça, vous êtes ferme là-dessus.
Il n'y a pas de dissolution de ces liens. Il y a une christianisation de ces liens, ça évidemment, dans la mesure où la parenté charnelle doit s'inscrire dans la parenté divine qui relie tous les chrétiens, mais il n'y a pas cette opposition que l'on va trouver chez certains théologiens en particulier ou chez certains moralistes à partir des 12e et 13e siècles. Dans la première partie du Moyen-Âge, on distingue bien entendu l'amitié spirituelle de l'amitié charnelle, mais il n'y a pas d'opposition.
Alors évidemment, dans cette deuxième partie, vous abordez, et c'est passionnant aussi, la question du genre, la question des femmes. L'infériorité féminine est une donnée qui se vérifie au Moyen-Âge, mais les hommes ne sont pas systématiquement, alors évitons les simplismes, renvoyés du côté de la raison et du contrôle des affects, et les femmes du côté de la chair, de la passion, de la fureur. La frontière du genre s'efface derrière celle du statut à l'occasion.
Alors, il est très difficile d'étudier la réalité de la condition féminine et de la place des femmes au Moyen-Âge, mais c'est pas seulement au Moyen-Âge, hein, c'est vrai dans la période suivante. Mais lorsqu'elles apparaissent, les auteurs qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont la plupart du temps des clercs, des hommes, de toute manière, plaquent sur les femmes des images qui sont des images négatives ou des images positives en fonction de ce qu'ils veulent démontrer et en général en fonction de l'homme qu'ils veulent atteindre et le plus souvent du mari. Donc on va soit stigmatiser l'épouse comme une nouvelle Jézabel ou la mère comme une nouvelle Jézabel, dépassant les limites de ce qui est normalement admis pour une femme, soit au contraire on va faire de la femme une sainte avant l'heure. Donc il est très difficile de sortir de ces images-là, en particulier dans les sources narratives ou dans les sources morales. On utilise la femme comme moyen de stigmatiser ou de ne pas stigmatiser l'homme. Il y a eu des beaux travaux de Geneviève Bureur-Thierry là-dessus sur les femmes empoisonneuses au Moyen-Âge ou les femmes adultères, par exemple. Hein. On accuse certaines femmes d'être adultères, mais ça, c'est pour mieux stigmatiser le mari qui n'a pas su tenir sa femme, en gros.
Ce que vous montrez dans cette deuxième partie, mais aussi tout au long de l'ouvrage, c'est qu'évidemment les affects se superposent. Aussi contradictoires soient-ils dans la limite de la mémoire, les affects sont changeants, gagnants ou perdants en intensité. Ça, c'est quand même une grande leçon, enfin. Et ça, pour nous, c'est toujours difficile un peu à penser, hein, parce qu'on a, voilà, c'est quand même un peu une espèce de sédimentation, enfin, tout superpose, tout change, tout évolue.
Tout est flexible. Je pense que le terme de flexibilité est important et permet de bien comprendre. De fait, des affects sont changeants. Vous avez parlé tout à l'heure de la parenté, mais la parenté elle-même est changeante. On est dans des sociétés où on est parent avec tellement de personnes. Si l'on prend les définitions juridiques de la parenté remontant au 7e degré et dans tous les côtés, de tous les côtés des grands-mères, des grands-pères, etc., que on est apparenté à tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Sinon, éventuellement, pour l'héritage. Et encore. Et si Gébert de Jambloux dit dans un texte que la parenté sans amitié est une coquille vide. Et je pense que c'est très important. L'amitié, c'est ça, c'est la familiarité, c'est accepter de s'engager auprès de l'autre. Alors, on s'engage peut-être plus facilement auprès d'un parent, mais la parenté en elle-même n'est pas une amitié et n'engage pas, il faut la rendre performative. Et c'est l'amitié qui rend performative. C'est exactement la même chose pour la relation vassalique. S'il n'y a pas d'affect, s'il n'y a pas d'affection, ça ne fonctionne pas. Et cette affection se mesure, cette affection se négocie comme tout le reste. On est dans des sociétés où on négocie. Toutes les sociétés de médiation, d'ailleurs, ce sont des sociétés de négociation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce sont pas forcément des sociétés d'affrontement, parce qu'on peut toujours s'arranger. De même qu'on peut, à la limite, s'arranger avec ses saints, avec les saints et avec Dieu. Fulcnera, qui avait été accusé d'avoir fait brûler sa femme, et qui était quand même un personnage un peu terrifiant, eh bien, il est allé 3 fois à Jérusalem. Hein. C'est loin, Jérusalem, à l'époque. Il faisait le tour, hein, pour expier ses péchés.
On est à quelle époque, là?
On est au début du 11e, où on fonde un monastère pour expier ses péchés. On n'est jamais sûr, mais enfin, on négocie.
Alors, disons juste un mot pour terminer, parce que là, votre troisième partie est passionnante aussi, hein, sur les affections du politique. On en a déjà dit un mot. L'amitié, dites-vous, déclinée sous la forme de la bienveillance, de la coopération, est l'idéal social et politique auquel tendent les élites en compétition autour du souverain. Vous dites à un autre moment, l'amour devient la source et l'expression de toutes les formes d'autorité. La culture du temps est celle de la médiation, vous l'avez dit tout à l'heure, et de l'intercession qui met en communication les personnes, les groupes, l'ici-bas et l'au-delà. Ces mots, c'est sans doute des mots-clés, ce sont des mots-clés de votre ouvrage. Médiation, intercession.
Intercession, oui. Ce que nous considérerions comme des pratiques condamnables dans le domaine du politique, c'est-à-dire faire jouer ses amitiés, même si ça se fait. Mais en tout cas, ça ne se dit pas et c'est pas considéré comme valorisant. Eh bien, dans ces sociétés-là, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que il faut faire jouer sa familiarité avec le souverain. Il faut essayer d'être le plus proche possible du souverain, de récompenser ses propres amis, de faire en sorte de les faire s'élever dans la hiérarchie. Donc, on est dans des sociétés de relations où finalement, l'amour devient progressivement le grand mot. Alors qu'à l'époque mérovingienne, le roi se fait d'abord craindre, et il est très peu question, il en est un petit peu question, mais il est peu question, par exemple chez un chroniqueur comme Frédéguer, d'amour pour le roi, ou d'amour du roi pour son peuple. Dagobert se fait craindre, hein, lorsqu'il fait sa tournée en 630 pour venir s'installer à Paris. Il passe par toutes les villes de Bourgogne, et Frédéguer dit « il s'est fait craindre ». Donc, il s'est imposé par la crainte. À l'époque carolingienne, on aurait dit qu'il se faisait reconnaître pour son amour, etc. Donc, on a changé de registre. Il n'empêche que le but du politique, c'est de faire régner l'amitié, la concorde entre les grands, de faire en sorte qu'ils ne s'entretuent pas. Et Frédéguer, toujours au 7e siècle, dit que un bon maire du palais, c'est celui qui fait régner l'amitié entre les leudes. C'est-à-dire entre les grands. Faire régner l'amitié entre les grands, à l'époque carolingienne, faire régner l'amitié entre les princes, entre les féodaux, à l'époque féodale. Dans un cadre qui est devenu le cadre chrétien et où la référence, c'est l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu qui devient l'amour du roi, l'amour du Seigneur. Et à partir des 10e et 11e siècles, on voit se répandre pour l'amour du Seigneur. Un noble peut faire une donation à une église pour l'amour de son Seigneur, qui n'est pas l'amour de Dieu, mais d'une certaine manière, c'est aussi l'amour de Dieu, mais c'est l'amour de son Seigneur. Le comte, si par exemple il est vassal de ce comte, et si le comte est protecteur de l'église en question. Vous voyez l'imbrication de tout cela.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être une dernière question, Régine Lejean. Ce livre, Amis ou ennemis, émotions, relations, identité au Moyen-Âge, vous le portez depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui est important de faire passer comme message? On sent bien à vous écouter, à vous lire, que c'est un livre très important. à la fois dans votre itinéraire de chercheuse, d'historienne, mais aussi pour la communauté des médiévistes, pour aussi plein d'autres gens qui vont vous lire avec beaucoup d'attention. Quelle est votre attente ?
Ce que j'attends, c'est que le public comprenne que les sociétés médiévales sont des sociétés complexes, qui bien entendu par certains aspects ressemblent aux nôtres, hein, et on peut y chercher l'origine, comment on peut chercher l'origine de nos sociétés dans l'Antiquité gréco-romaine ou dans le monde judéo-chrétien, mais qu'en même temps elles sont différentes et que pour bien les comprendre, il faut prendre en compte ces différences et surtout s'emporter de jugement sur ces sociétés en disant elles sont extrêmement violentes ou elles sont extrêmement chrétiennes, etc. Ce sont des sociétés complexes dans lesquelles la violence peut se combiner avec la foi chrétienne, avec la fidélité au Seigneur, etc. Et sans porter de jugement de valeur, parce que nos sociétés sont également des sociétés extrêmement violentes. Ce ne sont pas les mêmes formes de violence, mais ce que nous vivons aujourd'hui, aussi bien chez nous que dans le reste du monde, la violence y est générale, et certainement plus générale que dans la période précédente. Donc voilà ce que j'aimerais.
Eh bien écoutez, l'histoire continue, et merci beaucoup Régine Lejean, et c'est ainsi que se termine le 180e numéro de nos chemins d'histoire, le 21e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Régine Lejean, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Régine Lejean qui publie aux éditions du Seuil un livre fort stimulant, un ouvrage passionnant intitulé « Amis ou ennemis » avec un point d'interrogation, « Émotions, relations, identité au Moyen-Âge ». Toutes nos émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Vers le milieu du XIe siècle, le moine de Saint-Gall, Eckhart IV, relate la fausse réconciliation de l'évêque de Constance et abbé de Saint-Gall avec les comtes palatins Berthold et Erchanger au début du Xe siècle. Après cela, l'évêque de Constance invite ses hommes, les comtes Berthold et Erchanger, pour un banquet et un échange de cadeaux. On s'assied à la table, et comme il arrive d'ordinaire, en buvant les délicieuses boissons, ils admirèrent le travail des vases d'or et d'argent, mais plus encore de verre. Mais comme l'évêque, qui, comme nous l'avons dit, était avant tout avide de gloire, se vantait de toutes les richesses qu'il avait reçues du roi, et que ses hôtes prudemment gardaient le silence là-dessus, il commença à parler des immenses biens de Saint-Gall, excitant leurs esprits qui se sentirent offensés. Et comme en outre ses paroles étaient prononcées avec légèreté, leur méchanceté s'en trouva aggravée. Il leur dit aussi, surtout par des moqueries confuses, qu'il avait à Saint-Gall un four qui pouvait cuire en une seule fournée tout leur pain d'une année, car on pouvait en cuire 1000. De la même manière, lorsqu'il leur asséna qu'il avait un grand chaudron d'airain et une touraille qui pouvait contenir 100 mesures d'avoine, il ajouta qu'il avait aussi des bergers devant lesquels, s'il les voyait, ils devraient se décoiffer et incliner leur chevelure. Ces hommes avaient supporté avec patience toute la gloire factice de l'évêque, jusqu'à ce qu'il soit question de s'incliner devant les bergers. Cela ne pourrait jamais se faire, contredirent-ils. Cependant, au moment où ils allaient prendre congé, on apporta à ces hommes en colère des cadeaux de prix. Parmi ceux-ci, il y avait deux vases en verre particulièrement beaux qu'ils avaient beaucoup admirés auparavant pendant le repas. Les prenant alors dans leurs mains, ils se consultèrent du regard l'un l'autre, les laissèrent tomber et se mirent à rire quand ils se brisèrent. Entre autres choses, ils s'en allèrent astucieusement en rendant 1000 grâces à l'évêque. Finalement, au moment du départ, l'évêque leur demanda en leur donnant un baiser « Ils étaient à vous, vous n'aviez donc pas besoin de briser des coupes d'aussi grand prix. Rien que pour assurer le salut de votre âme, vous auriez pu donner l'argent aux pauvres. » Ils répondirent « On donne du verre aux amis de verre, mais nous qui ne voulons pas être de verre, nous avons brisé le verre. » Et après s'être embrassés et avoir bu en signe d'amour, comme c'est la coutume, ils s'en vont, tout joyeux.